Nous reprenons le fil de cette journée d'études, architecture et littérature, fiction, rhétorique et poétique, avec quatre intervenants, Marie-Pierre Hulloa, Yvan Jablonka, Guillemette Morel-Journel, Thomas Clerc et un répondant, Jean-Christophe Bailly, qui prendra la parole après ces intervenants pour nous confier les réflexions que tout ceci lui inspire. Alors tout d'abord, Marie-Pierre Hulloa, qui est diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, qui est donc à l'origine politologue et historienne, docteur de l'École des hautes études en sciences sociales. Elle enseigne depuis pas mal d'années à l'université de Stanford, en Californie, au carrefour de différents programmes, programmes consacrés aux langues romanes, à la culture et à la civilisation juive. Elle a beaucoup de terrains de recherche, de la France au Maghreb, et en particulier à l'Algérie, à la Californie, donc beaucoup de terrains d'une part, et aussi plusieurs disciplines à l'articulation desquelles elle opère, l'histoire, la sociologie de la littérature et celle du cinéma, mais aussi l'analyse des œuvres. Elle a publié deux ouvrages en français, dont le premier en français et en anglais, le deuxième sera rapidement traduit en anglais aussi. Le premier est consacré à Francis Janson, cet intellectuel engagé dans le soutien au Front Libération Nationale algérien pendant la guerre d'Algérie. Donc Francis Janson, un intellectuel en dissidence de la résistance à la guerre d'Algérie, une trajectoire biographique assez précise et extraordinairement inspirante. Son deuxième livre s'intitule « Le nouveau rêve américain du Maghreb à la Californie » et suit à la trace les émigrations juives et musulmanes des trois pays d'Afrique du Nord vers la Californie depuis l'après-guerre. Les travaux qu'elle mène à l'heure actuelle la conduisent à nouveau vers l'Afrique du Nord autour d'une part de la figure de Camus, dont elle parlera, mais aussi autour de la présence parisienne des mouvements politiques nord-africains dans l'après-guerre et au-delà des indépendances. Elle vient de publier deux articles mettant en, je dirais, donnant son contexte et aussi critiquant le rapport remis par Benjamin Stora au président de la République sur le contentieux franco-algérien en termes de mémoire. Donc, comme vous le voyez, c'est un spectre assez large de réflexion autour de la Méditerranée et menée à travers l'Atlantique, qui est le sien.
Merci Jean-Louis pour cette généreuse introduction et merci pour avoir pu organiser et maintenir ce colloque. Et je tiens également à remercier Véronique Budin et à remercier Arnaud Dersel, l'archiviste, le responsable du département de la recherche à la Fondation Le Corbusier, qui m'a grandement aidée pour cette communication. Dans la note d'intention pour cette journée d'études, et je voudrais aussi remercier les participants de ce matin parce que j'ai trouvé les présentations très stimulantes et pour ma part, ça fait un an, même plus d'un an, que je ne me suis pas retrouvée dans un cadre collégial de rencontres universitaires, académiques et amicales. Donc, merci. Dans cette note d'intention pour le colloque, Jean-Louis Cohen écrit « Des réminiscences intimes à l'évocation poétique d'un lieu et au transfert du modèle structurel de l'édifice dans le champ littéraire, de multiples figures sont à la source d'échanges féconds entre le bâti et l'écrit, en prolongement d'un cours placé sous le signe de l'interurbanité ou de relations entre les formes urbaines dans lesquelles la théorie littéraire est prudemment mise à contribution. On s'interrogera sans dogmatisme lors de cette rencontre sur la relation entre les écrivains, les architectes et les édifices. » Alors, je voudrais, moi-même, n'étant ni architecte, ni écrivain, mais chercheuse en histoire culturelle, en histoire culturelle et intellectuelle, me livrer, vous livrer à un pan d'une recherche balbutiante que je viens d'entamer sur le travail d'Albert Camus, un travail qui se déploie autour de la notion de la maison et prend sens autour de la question de la maison et de l'ancrage urbain territorial de l'écrivain, d'Alger à Lourmarin, sa dernière demeure, peut-être sa demeure idéale dans le Luberon, maison de laquelle il partira en janvier 1960 pour ne jamais revenir puisqu'il mourra dans cet accident de voiture le 4 janvier 1960. Donc, peut-on penser à Alger sans penser à Camus, sans penser à l'étranger, à Nos, au premier homme ? Mais néanmoins, quand on pense à Camus et à Alger, on pense davantage au quartier Bellecour, au lycée Bugeaud, plus qu'à la Casbah. Mais aujourd'hui, dans ma présentation, et que je vais mettre sous le signe de l'intermédialité de ce croquis qui est présent dans l'ouvrage de Le Corbusier, La ville radieuse de 1935, un croquis qui a été publié dans l'ouvrage de son amie, l'écrivaine algérianiste Lucienne Fabre, Tout l'inconnu de la Casbah d'Alger en 1933, donc la même année que le texte de Camus dont je vais vous parler, donc sous le signe de cette intermédialité et de cette représentation de la Casbah et de ses terrasses et ces toits qui descendent vers la mer, vers la baie. Donc, Camus a écrit son premier texte, ou l'un de ses premiers textes, qui est considéré comme son baptême littéraire, à un haut lieu de la Casbah, la maison mauresque, texte qu'il écrit en 1933 et qui ne sera publié qu'après sa mort en 1973. Je voudrais aborder la relation de ce primo-écrivain de 19 ans, donc qui cessait à l'écriture, avec cet édifice de la maison mauresque et le tournant que représente l'écriture de ce texte pour Camus, l'importance dans la réflexion de Camus de l'architecture de cette maison, non seulement comme matrice littéraire, mais aussi dans l'éveil encore incertain de sa conscience politique de l'Algérie coloniale et du sort des Arabes, en me basant pour cela sur un autre écrit de Camus, qui précède la publication de la maison mauresque dans ses œuvres complètes, l'art dans la communion. Et en écho et en prolongement de cette première évocation de la maison mauresque, je m'attellerai à mettre en regard le texte de Camus avec un texte récent, La maison indigène, là je vous montre la couverture du texte, publié par Claro en 2020, le récit, c'est un récit hybride autour de cette maison indigène bâtie par le grand-père de l'écrivain, par Léon Claro, en 1930, à l'occasion du centenaire de l'Algérie française. Donc de mettre en relation le texte de Camus, le texte de Claro, en adoptant une écriture en accrochage, selon le mot de l'historien Philippe Artière, qui dans son ouvrage « Des routes accrochage » écrit « À mes yeux, l'historien n'a pas pour tâche de faire parler une représentation, mais de permettre une juste confrontation avec le présent, de faire entendre le mieux possible des ensembles de représentations archives. Cette justesse passe par un travail d'écriture que l'on pourrait qualifier de montage ou même d'accrochage, et même d'accrochage. Donc, je voudrais vous présenter, vous offrir à votre regard, à votre critique, cette sorte de mise en accrochage en mettant en dialogue des textes de genres différents, comme des témoignages, des croquis et le récit de Camus sur la maison mauresque pour tenter de provoquer de nouvelles intelligibilités. Et je vais tenter cette écriture en accrochage en opérant donc une correspondance entre ces deux textes, celui de Camus, celui de Claro. Claro, donc, qui écrit sur la maison indigène, celle que son grand-père Léon Claro a fait bâtir à Alger. Cette maison qui a été bâtie à l'occasion du centenaire de l'Algérie française. Donc ce centenaire célébré en grande pompe en Algérie, avec notamment la visite du président Gaston Doumergue donc en 1930, et cette construction de la maison mauresque qui correspondait à une commande du Conseil supérieur du centenaire et de la ville d'Alger, dont le maire de l'époque était Charles Brunel. Cette maison elle-même est devenue un lieu de mémoire, à la croisée de la mémoire collective et de la mémoire familiale de l'auteur, maison-villa qui porte donc son nom. En France métropolitaine, au même moment, ou en 1931, durant ces années entre 1930 et 1933, donc 1930, la célébration du centenaire de l'Algérie française, 1933, l'écriture du texte de Camus, c'est à l'époque en France métropolitaine, le temps de l'exposition coloniale internationale au Palais de la Porte Dorée, de l'exhibition à outrance des richesses de l'empire colonial français, le deuxième au monde, avec 13 millions de kilomètres carrés sur quatre continents. C'est aussi en France métropolitaine l'éclosion du mouvement de la négritude autour des étudiants sénégalais Léopold Sédar Senghor, de Aimé Césaire, de Léon Gontran Damas de la Guyane et des sœurs Paulette, Jeanne et André Nardal, les Martiniquaises qui ont œuvré à cette éclosion du mouvement de la négritude. Et dans un contexte européen, c'est aussi l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne. Pour vous donner un contexte plus général du temps de l'écriture de la maison mauresque de Camus. Donc, Albert Camus est né en 1913 dans l'Est algérien, à Mondovi. Il a grandi à Alger, donc au temps de l'Algérie française. Il est élève au lycée Bugeaud à la fin des années 20, début des années 30, où il a pour professeur de philosophie un certain Jean Grenier. Camus appartient dans les années 30 à un cénacle artistique de jeunes personnes qui compte dans ses rangs le futur peintre Louis Benisti. Et d'ailleurs, un ouvrage vient d'être publié sur les correspondances entre Albert Camus et la famille Benisti, le futur écrivain Max-Paul Fouchet, mais aussi les futurs architectes Louis Miquel et Jean de Maisonseul. Jean de Maisonseul étudiait lui-même à l'architecture à l'École des Beaux-Arts d'Alger, sous la direction de l'architecte Léon Clarot. Léon Clarot lui-même était né en 1899 à Oran, était lui-même un ancien élève de l'École des Beaux-Arts d'Alger, dont il devient le chef d'atelier d'architecture en 1928. Et il restera en Algérie jusqu'en 1964 et mourra en France en 1991. Donc, cette maison, cette villa du centenaire, cette maison indigène, se situe dans un lieu liminal de la Casbah, à sa bordure, près de l'ancienne place d'Estrée, à proximité du palais d'Ar Mustapha, qui fascinera tant Le Corbusier lors de sa première visite à Alger en 1931, palais qui a été construit à la fin du 18e siècle et qui allait devenir la bibliothèque d'Alger en 1863, qui sera fréquentée par le père de l'écrivain Clarot, Henri Clarot lui-même. Et elle deviendra, après l'indépendance, la maison indigène deviendra après l'indépendance la maison du millénaire, comme si en se dérobant aux Français, elle recouvrait d'un coup 900 ans d'histoire occultée et de maison du centenaire devient maison du millénaire. En 1933, donc au moment où Camus écrit son texte, c'est un autre architecte, donc Jean de Maisonseul, qui fait découvrir la maison mauresque à Albert Camus et qui lui fait découvrir la Casbah. Donc, comme je l'ai dit, Jean de Maisonseul est un étudiant de Léon Clarot. Maisonseul et Camus ont tous les deux 19 ans quand ils visitent la Casbah et la maison mauresque. Et comme le déclare Léon, donc voilà la maison mauresque, une carte postale de l'époque, qui était aussi, je reviendrai là-dessus, appelée maison indigène. Voilà d'autres clichés anciens sur cette maison mauresque. Des clichés plus récents, cette photo prise par Jean-Louis Cohen en 2002, et des photos encore plus récentes de 2021 la maison mauresque qui est entourée de feuillages, mais aussi de grillages, dans un état qui, je reviendrai là-dessus, déjà laissait un peu à désirer quelques années après la construction de la maison. Voilà la maison qui est et la confrontation entre une image d'époque lors de la construction de la maison et une image de 2021. Alors, comme le déclare Léon Clarot au journaliste André Saroui, au moment de l'inauguration, quelques temps après l'inauguration de cette maison, c'est la reconstitution d'une maison type de la Casbah d'Alger avec toutes ses imperfections, ses erreurs d'une maison bâtie par le propriétaire lui-même, naïvement, sans symétrie. Pour ajouter à l'illusion, j'ai ordonné à mes maçons de crépir les murs en se servant uniquement de semelles d'espadrilles. Et il donne une longue interview à ce journaliste qui note que la maison fait preuve d'une architecture excentrique, âpre, irrégulière, mais admirable. Avec toutes ses imperfections, cette maison est soi-disant une réplique d'une maison traditionnelle de la Casbah, afin de promouvoir le patrimoine du vieil Alger, donc de découvrir les différents espaces de la maison, son patio, son vestibule, ses chambres, sa cour intérieure. Les matériaux utilisés sont des poutres centenaires, du marbre, de la faïence, des bois, des briques, et provenaient de démolitions de maisons de la basse Casbah. Aucune fenêtre en façade, sauf pour la maison du gardien, et des encorbellements soutenus par des rondins en tuya, comme on peut le voir sur cette photo. Alors, est-elle vraiment si mauresque, cette maison, et de style néo-mauresque ou de style ottoman? Elle a été bâtie avec des matériaux à la fois ottomans, espagnols, siciliens, français, et quelques matériaux locaux de maisons de la basse Casbah. On pourrait plutôt dire que c'est une villa hybride qui répondrait plus à la définition du simulacre de Jean Baudrillard dans Simulacre et Simulation, la copie d'un lieu qui n'a jamais existé et qui renvoie fondamentalement à une absence. Et c'est aussi Jean de Maison Seule, donc le futur architecte, qui va jouer le rôle de passeur entre Camus et les idées audacieuses architecturales de Le Corbusier à l'époque, puisque c'est lui qui va l'introduire aux écrits de Le Corbusier et qui fera aussi le guide de la Casbah auprès de Le Corbusier lorsque l'architecte suisse se rendit à Alger en mars 1931, invité par l'Association de l'urbanisme algérois pour une mission d'urbanisation, de réaménagement du quartier de la Marine et pour faire deux conférences le 17 et le 21 mars 1931. Et cette attention à l'architecture d'Albert Camus dans son texte « La maison mauresque » se retrouve aussi dans ses relations avec Le Corbusier, une relation d'amitié qui sera présente notamment lors du décès de Camus en janvier 60, puisque Le Corbusier adressera une lettre de condoléances à Francine Camus, la veuve d'Albert Camus, en affirmant que les deux hommes appartenaient à la même bande des années 30, avec Jean de Maison Seule, Max Paul Fouché, Emery, Jean Sénac et l'architecte Louis Miquel. Ça, ce sont dans les archives de la Fondation Le Corbusier. Donc Camus est un véritable interlocuteur pour Le Corbusier et vice-versa, et c'est ce que je voudrais montrer dans La Maison Mauresque, l'influence de Le Corbusier sur l'écriture de textes lui-même. Et des années plus tard, en 1952 d'ailleurs, Camus fera les commentaires a posteriori d'un court-métrage sur la Cité radieuse, un court-métrage de Jean Sacha, sur la Cité radieuse de Le Corbusier, avec des commentaires de Camus. Donc c'est une amitié qui naît dans les années 30 et qui perdurera jusque dans les années 50. Et si l'architecture, pour reprendre un propos évoqué ce matin, est une pure création de l'esprit selon Le Corbusier, telle est aussi en partie la définition de la littérature pour Albert Camus. Et il semblerait donc que Camus ne soit pas, que Le Corbusier ne soit pas étranger à l'écriture de La Maison Mauresque. Et d'ailleurs, dans sa thèse, l'Algérie de Le Corbusier, l'Algérie des voyages de Le Corbusier en 1931, Alex Gerber cite dans sa thèse: probablement le tout premier texte non philosophique de Camus, il fut écrit en 1933 dans un cahier d'écolier, est un essai intitulé « La maison mauresque », structurée sur ses composantes architecturales. Maison Seule lui avait alors beaucoup parlé de ses promenades avec Le Corbusier et on connaît l'amour de Camus pour la Casbah. Voici ce qui n'est certainement qu'une coïncidence. Camus appellera la maison louée par lui avant la guerre, située sur les hauteurs d'Alger, la maison devant le monde. Quant à Le Corbusier, il écrira en 1941 que les logements du plan obus auraient été un balcon du monde. Et donc, ce plan obus qui a déjà été évoqué ce matin, avec son immeuble viaduc habitant qui parcourait Alger, qui ne cessera d'évoluer durant les années 30 et qui ne sera pas matérialisé par Le Corbusier à Alger. On voit ici qu'il y a ces affinités entre Le Corbusier et Camus autour de cette culture méditerranéenne qu'ils partagent, de cette sensualité notamment de la culture méditerranéenne et celle d'Afrique du Nord en particulier. Et Le Corbusier écrira en 1935 dans Aircraft, d'après la thèse de Véronique Bonne, son affinité justement avec Camus et cette culture méditerranéenne, en parlant de ce même amour de l'harmonie du paysage, de l'harmonie du pays. Il y a aussi cette notion que l'on peut voir dans la bibliothèque de Le Corbusier, puisqu'il possédait 5 ouvrages au moins de Camus, dont Noce et l'édition de Noce chez Édouard Charlot, donc à Alger, de 1939. Les ouvrages de Camus ne sont pas annotés par Le Corbusier, à l'exception de L'homme révolté, qui est un ouvrage dans sa bibliothèque qui est annoté. Dans l'ouvrage Le Corbusier par lui-même, ou Le Corbusier lui-même de Jean Petit, Camus, il est mentionné, Camus aurait interviewé Le Corbusier en 1938. Bon, je n'ai pas trouvé trace de preuve de cette interview, mais néanmoins, les contacts entre les deux hommes étaient initiés dès les années 30. La fameuse maison devant le monde de Camus est la maison Fichue, sur le chemin Sidi Ibrahim à Alger, une maison refuge pour Camus qui va s'y réfugier après sa séparation avec sa première femme Simone Hier, et où vivent ses amis Marguerite Daubren et Jeanne Sicard et Christiane Galingo par la suite. Et il finira donc par s'installer dans cette maison et par la baptiser la maison devant le monde, parce qu'il y a une terrasse et depuis la terrasse de cette maison on voit toute la baie d'Alger. Alors, de cette maison devant le monde, je voudrais passer à la maison mauresque proprement dite. Cette maison mauresque, qui est le titre donc éponyme du premier écrit, d'un des premiers écrits de Camus, connaît 4 désignations successives. Pour Camus, elle est la maison mauresque. Pour Claro, il a donc choisi d'intituler son récit « La maison indigène ». Elle est aussi officiellement connue comme « La villa du centenaire », également comme « La villa Claro », notamment dans la 4e de couverture des éditions Actes Sud, puisque dans les éditions Actes Sud, la 4e de couverture est explicitement intitulée « Le point de vue des éditeurs ». Et on ne désigne pas forcément la même chose en changeant de groupe nominal. Donc, on voit que Camus, lui, décide d'insister sur le caractère autochtone, local, voire ethnique de la maison mauresque, avec cette forme adjectivale. Il reprendra cette notion sous le substantif de la mauresque dans L'étranger, 9 ans plus tard, en 1942. Et je vous rappelle que le personnage de la mauresque dans L'étranger est le catalyseur de l'action de l'étranger jusqu'au meurtre de l'arabe à la fin de la première partie de l'étranger. Donc Camus, délibérément, lui, fait ce choix de l'ancrage local, historique, peut-être aussi d'un ancrage autochtone des habitants d'Alger, et des habitants de la Casbah en particulier. Il va mentionner dans son texte à 3 reprises les Arabes, il mentionne les indigènes, il mentionne les cafés morts. Il y a peut-être aussi un lien avec son passé espagnol, puisque Camus avait une propre histoire filiale avec l'Espagne du côté de sa mère. Donc, cette référence fait une référence à l'ancrage autochtone, local et ethnique de la maison mauresque, peut-être aussi au style mauresque de la maison. Claro, lui, choisit au contraire donc l'intitulé de la maison indigène, cette maison indigène sans indigène, comme il le précise, et il choisit non seulement de mettre le titre et en couverture une photographie de la maison, mais qu'il va aussi répliquer à l'intérieur du livre avec ce sous-titre, la villa du centenaire en costume au centre, l'architecte Léon Claro. Donc là, on voit un ancrage qui évolue vers la maison mauresque de Camus vers la Villa du Centenaire, donc cette affirmation à la fois de la domination temporelle de l'Empire colonial français et en même temps la distinction de l'architecte en costume au centre de la photo qui est précisée dans les pages du récit. Cette villa mauresque, ou cette maison indigène, est aussi une maison indigène que Claro fait rimer avec maison indigeste, puisqu'il s'attelle dans son récit à une quête familiale, dans le dédale d'un diorama familial, comme il le précise. C'est une fresque soumise à des jeux d'éclairage différents selon les générations. Il est plus en quête de son père, Henri Claro, à qui il dédie son récit à la fin, In Memoriam H.C., Henri Claro, où là on voit un croquis de Claro Henri d'une maison arabe. Ce père qui vivra dans l'ombre de l'exil, du retour ou de l'installation en France après la guerre, donc un récit plus en quête de son père même que de son grand-père qui fait plutôt figure de cet architecte bâtisseur qui incarne une figure tutélaire plutôt solaire dans le récit. La Villa du Centenaire, donc cette maison mauresque, cette villa du centenaire, c'est aussi dans le récit de Claro une double référence au constructeur indigène de la maison. Et on voit au-dessus de l'architecte, certainement, j'imagine, des maçons qui doivent travailler, et notamment un jeune garçon à l'édification de la maison. Donc cette référence aussi au constructeur de la maison et aux habitants de la Casbah eux-mêmes, tandis que la Villa du Centenaire, comme je l'ai dit, insiste plus sur la dimension coloniale, temporelle, de la domination et du prestige colonial, impérialiste de la présence française en Algérie. Sur la quatrième de couverture d'Acte Sud, il est mentionné donc, que cette villa est aussi la Villa Claro et qu'elle aurait inspiré, et je cite, « un jeune homme de 20 ans, Albert Camus, lequel en ressortit littéralement ébloui et écrivit alors un de ses tout premiers textes, La Maison Mauresque, véritable acte de naissance littéraire du futur prix Nobel ». Voilà comment les éditions Actes Sud le présentent. À l'origine de cet acte de naissance littéraire, il y a le moment heuristique de non seulement la visite de la maison, mais aussi de la lecture en mars 1933, donc un mois avant l'écriture du texte, des îles de Jean Grenier. Donc son professeur Jean Grenier, qui a servi de mentor à Camus à bien des égards. Donc la lecture de ce récit de Jean Grenier, Les îles, plus la visite de la maison mauresque avec Jean de Maisonseul servira en fait de catalyseur et de catharsis littéraire pour Camus. Et là, je cite aussi Claro qui, dans un de ses chapitres, son récit est coupé est découpé en 37 chapitres courts. Il écrit « L'espace littéraire qu'il bâtit a pour architecte un homme discret et sensible, Jean Grenier, dont le seul nom évoque le retrait et l'archive. » Donc, il est intéressant aussi de voir que Jean Grenier, ce professeur de philosophie de Camus, fait aussi écho dans l'écriture de Claro à l'architecte, à ce bâtisseur, ce concepteur qui va impulser ou provoquer cette écriture de la maison mauresque de Camus. Cette influence, on voit également qu'elle est considérée par Camus lui-même. Dans son introduction, voilà une photo de Camus à l'époque, donc au lycée Bugeaud, quand il est en classe d'Hippocagne, en classe préparatoire littéraire. Il n'y a pas Jean Grenier sur cette photo, mais c'est une des photos avec Camus de l'époque. Donc, dans la maison mauresque, Camus note qu'il voulait bâtir une maison d'émotion. Et là, on ne peut s'empêcher de penser, bien sûr, à Le Corbusier, qui a d'ailleurs cette citation qui a été évoquée ce matin, vers une architecture où il parle de la maison du Parthénon, qu'il compare à des machines à demeurer ou à émouvoir. Et là, Camus donc, veut bâtir une maison d'émotion. Et l'architecture est véritablement intégrée et considérée comme une présence centrale dans son texte. La maison mauresque de Camus n'est pas une maison familiale, ce n'est pas une maison qu'on habite, mais c'est une maison qu'on visite. Aucun souvenir d'enfance n'est évoqué par Camus, mais c'est une maison qu'il visite comme un musée. L'écriture de Camus est elle-même en devenir, en tâtonnement. Il y a une profusion d'adjectifs, une profusion verbale dans son style, que l'on retrouvera un peu quelques années plus tard dans Nos. C'est un langage que certains critiques ont trouvé trop précieux, mais c'est le langage de Camus à ce moment-là, en 1933. Il écrit sur cette maison en ayant recours à l'ekphrasis, donc cette figure qui consiste à mettre sous les yeux du lecteur, de la lectrice, une description rappelant un autre art que la littérature, la peinture, la sculpture et dans ce cas-là l'architecture. L'utilisation qu'il fait du paradigme architectural dans cette construction romanesque est intéressante dans le sens où le rapport entre la littérature et l'architecture passe par la mise en scène d'une maison neuve qui se veut une maison vieille, qui se veut une maison orientale, voire orientaliste. Et ce que fixe Camus dans son récit, c'est d'une part, ce qui l'intéresse, c'est en fait le résultat final du travail architectural qu'est l'édifice, et non pas le processus de construction de l'édifice. Il y a certains critères qu'il va évoquer, des critères objectifs, comme il va faire défiler les pièces, et voici le découpage de son texte, l'entrée, le couloir, la tombée de lumière, dernière pénombre, le patio, avec une citation insérée d'Oswald dans Les Revenants d'Ibsen, d'une voix étrange, mère, donne-moi le soleil. Donc cette citation de 1933 qui étrangement rappelle, évoque l'étranger qu'il écrira neuf ans plus tard. L'architecture narrative qu'il utilise est basée sur une grammaire visuelle qui évoque l'atmosphère des lieux, le silence, l'eau qui coule, les jeux d'ombre et de lumière, ce qu'il appelle la plénitude odorante du soleil, qui vont structurer la phrase comme les éléments d'une maison, la structure. Il donne aussi un sens à certaines pièces, et là je voudrais citer... vous montrer donc des photographies de l'intérieur de la maison, parce que ce qui intéresse surtout Camus, c'est l'intérieur de la maison, c'est la cour intérieure, c'est après le vestibule qui monte à la terrasse. Donc il s'attarde sur cette cour intérieure et sur des considérations qui sont présentes dans un écrit qui précède la maison mauresque, de l'art dans la communion. Et là, je voudrais vous faire cette citation qui sera un peu longue. En fait, l'art lutte contre la mort. À la conquête de l'immortalité, l'artiste cède à un orgueil vain, mais à un juste espoir. Au-dessus de la vie, au-dessus de ses cadres rationnels, se trouve l'art, se trouve la communion. Et ceci se retrouve dans les arts particuliers. Je crois pouvoir l'affirmer, architecture, peinture, littérature, musique, vient également la vie. Je dis architecture, quoique celle-ci semble au contraire au service de la vie courante. Voyez plutôt l'architecture d'une maison arabe, généralement une entrée carrée surmontée d'une coupole, puis un long couloir qui fuit dans le bleu, une brusque tombée de lumière, un autre couloir à angle droit plus petit qui mène au patio large, horizontal, infini. À ce processus architectural, on peut faire correspondre une sorte de principe affectif. Si l'on songe à l'inquiétude qui flotte sous la coupole de l'entrée, qui s'engage dans l'incertaine attirance du couloir bleu, est illuminée pour une première fois mais retrouve un couloir hésitant, pour arriver à l'infinie vérité du patio, ne peut-on croire que de la coupole au patio se déroule une volonté d'évasion qui répond justement à l'âme orientale ? Et la fin de cette citation, je ne crois pas qu'il y ait seulement là une subtilité intellectuelle, car on ne peut nier qu'il y ait chez l'arabe une volonté de se créer un monde à lui, ordonné et personnel, qui lui fasse oublier l'extérieur, monde que lui fournit précisément sa maison. Un fait précis, il est impossible de l'extérieur d'apercevoir autre chose que l'entrée. On ne peut se douter devant une maison mauresque de la richesse, de l'émotion intérieure. Donc, je termine cette longue citation pour montrer comment, dans ces réflexions de Camus autour de l'architecture et de la présence des Arabes, de l'Arabe dans cette maison, il y a déjà l'évocation de cette dichotomie entre l'intérieur et l'extérieur, entre la richesse qui n'est pas montrée, qui n'est pas à voir à l'extérieur à l'œil nu, mais qu'il faut aller chercher à l'intérieur de cette maison, et le fait également que cette maison qu'il va décrire après, en mettant aussi l'accent sur la circulation de l'air. Il commence ses mots par l'inquiétude qui flotte dans cette maison, et il va terminer par l'évocation de la brumeuse magie du souvenir. Et là, je vous cite en manière de conclusion donc la fin de ce texte de la maison mauresque. « Lentement, dans l'oubli et le sérieux, aussi dans la joie convaincue, j'ai édifié ma maison. Et à la voir maintenant bâtie, le regret germe en moi des émotions secrètes et savourées dont elle m'abritait. Je m'inquiète d'avoir à chercher de nouveau, puisqu'elle n'est plus à moi, achevée. Elle est maintenant édifiée, je me désespère de la sentir se dérober à moi, de la voir avec une criante lucidité, rejoindre lentement, inéluctablement, l'abîme où, insoucieuse de l'homme qu'elle protégeait, elle n'aura pour tout crépi que la brumeuse magie du souvenir. » Donc là, je lis dans cette citation finale de ce court texte un sentiment doublement prémonitoire dans ces lignes qui sont à la fois cette maison qui devient une maison de la mémoire, de l'enveloppe du souvenir qui reste et qui va survivre à cette maison, et également un changement d'échelle, puisque de l'évocation de l'édifice, de la construction architecturale, Camus glisse vers la prise de conscience de cette maison qui va échapper à son constructeur, de la créature qui va échapper à son créateur. Et en écho de cette évocation, je voudrais également citer l'architecte lui-même de la maison, Léon Clarot, en 1935, donc 5 ans après la construction de la maison, où il va dire dans son journal « Visite de la maison indigène du centenaire, un peu abîmée par la maladresse des services communaux. La belle petite fontaine, un art que j'aime tant, a servi de refuge à une caisse qui abrite les piles d'une sonnerie électrique. Dans la cour, autre massacre. Les boiseries ont été vernies et l'heure, illisible, qui colle à la main. Une révolte. Je donne un peu partout des coups de canif. » Donc, on voit comment la maison échappe à la fois à son architecte et échappe aussi à l'écrivain, au jeune écrivain, qu'est Camus à l'époque, et cette notion prémonitoire aussi de cette maison qui va en fait échapper à ses constructeurs, aux Français d'Algérie, puisque quelque part la célébration du centenaire de l'Algérie française en 1930 est un chant du cygne de la présence française en Algérie qui, après, comme on le sait, avec la montée des mouvements d'indépendance nationaliste, conduiront à la guerre d'Alger, guerre d'Algérie durant laquelle Camus, qui sera en grande partie en France métropolitaine, fera de cette ville d'Alger une ville libre, puisque ce sera le sujet de son dernier écrit, Le Premier Homme, qu'il écrira donc durant les dernières années de sa vie, qui ne sera publié qu'en 1994, mais qui est ce manuscrit qui sera trouvé dans l'accident mortel qui l'emportera et qui montre comment il va faire de cette ville d'Alger l'obsession de son dernier récit, ce récit hautement autobiographique, et cette notion donc de lire en écho le premier écrit de Camus de 1933 de cette perte de cette maison et en métaphore de cette perte de l'Algérie qu'il aura connue durant sa vie. Alors, maintenant, je voudrais faire une comparaison avec un autre texte de Camus, et je terminerai là-dessus, qui est le Minotaure ou la Halte d'Oran, et la figure du Minotaure donc, qui revient encore aujourd'hui. Le Minotaure ou la Halte d'Oran fait partie du recueil Nos, est écrit en 1939 par Albert Camus. Voici la maison du colon, donc le Minotaure ou la Halte d'Oran s'attarde, est découpé en quatre parties, la rue, le désert à Oran, en cinq parties, la rue, le désert à Oran, les jeux, les monuments, dont la maison du colon et la pierre d'Ariane. Et dans cette maison du colon, donc voici une carte postale. Là, voici une autre image plus précise où l'on voit cette inscription « Maison du colon à la gloire de la présence française ». Si j'arrive à bien lire, en Algérie. Donc cette inscription a été, après l'indépendance, retirée de l'édifice. Et cette maison des colons est elle aussi construite à l'occasion du centenaire de l'Algérie française. Elle est inaugurée en avril 1931. Elle se situe à Oran, non loin de la cathédrale d'Oran. C'est une maison des architectes Brunier et Wolff avec des mosaïques du peintre Belmonte et qui est construite spécifiquement pour les services agricoles de la ville d'Oran et qui est présentée par le journal L'Écho d'Alger comme le soutien à la prospérité française en Algérie. Maison pour laquelle Camus aura ces mots dans le Minotaure ou la Halte d'Oran. En plein cœur de la ville commerçante, ayant à construire une maison commune pour les innombrables organismes agricoles qui font vivre ce pays, les Oranais ont médité d'y bâtir, dans le sable et la chaux, une image convaincante de leur vertu, la maison du colon. Si l'on en juge par l'édifice, ces vertus sont au nombre de trois. La hardiesse dans le goût, l'amour de la violence et le sens des synthèses historiques. L'Égypte, Byzance et Munich ont collaboré à la délicate construction d'une pâtisserie figurant une énorme coupe renversée. Des pierres multicolores du plus vigoureux effet sont venues encadrer le toit. La vivacité de ces mosaïques est si persuasive qu'au premier abord, on ne voit rien qu'un éblouissement informe. Mais de plus près, et l'attention éveillée, on voit qu'elles ont un sens. Un gracieux colon à nœuds papillons et à casque de liège y reçoit l'hommage d'un cortège d'esclaves vêtus à l'antique. L'édifice et ses enluminures ont été enfin placés au milieu d'un carrefour, dans le va-et-vient des petits tramways à nacelles, dont la saleté est un des charmes de la ville. Et plus tard dans le texte, Camus, qui n'éprouvait guère d'affection particulière pour la ville d'Oran, dira également que Oran, les monuments d'Oran font preuve de médiocrité et il qualifie Oran de capitale de l'ennui. Ce texte, avec cette théâtralisation de l'espace dans l'évocation de cette grandiloquence architecturale presque boursouflée de la ville d'Oran, est absente du texte sur Alger, sur la maison mauresque, où si Camus lit Oran au regard d'Alger, on voit comment dans la maison mauresque, il admire la création coloniale à partir, donc, comme je le disais, des matériaux de la colonie dans une reconstitution d'une maison orientaliste, soi-disant à l'identique. Et si, contrairement à la maison du colon dans le Minotaure ou la Halte d'Oran, les Européens, eux, ne sont pas présents dans la maison mauresque, où là, ils insistent sur la présence des Arabes, des indigènes aux yeux mi-clos, où ils parlent de la chaude paresse des cafés morts avec la présence des indigènes. Et on voit que la manière dont Camus dépeint ces deux villes, comment il fait corps avec sa ville d'Alger et comment il se met véritablement à distance avec la ville d'Oran. Et si ce texte de Camus sur la maison mauresque est une célébration de la villa du centenaire et du centenaire de l'Algérie, ce n'est qu'une célébration dans le pressentiment de la fin du monde d'hier que représente aussi le centenaire de cette présence française en Algérie. Merci. Voilà sur le paradoxe du texte.
Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je crois que c'était une excellente réentrée en matière, que ces textes multiples, inconnus ou inlus de Camus sur l'architecture, au-delà de son texte initial. Des questions à Marie-Pierre et au travers d'elle à Camus. Une petite remarque au passage, Jean de Maison Seul fut un élève de Gaston Bardet à l'Institut d'urbanisme. Donc, il y a un lien entre nos héros. Et il travailla notamment pendant la guerre, à la fin des années 30 et pendant la guerre, au premier plan d'aménagement et de conservation du Marais. Donc, Jean de Maison Seul est un urbaniste important et qui, après la guerre, pendant la guerre d'indépendance, sera du côté des Algériens.
Oui, et qui sera même arrêté, et Camus écrira une lettre de soutien pour sa libération auprès du président René Coty, je crois.
Oui, merci beaucoup pour ce texte que tu nous avais déjà fait découvrir et qui est vraiment magnifique et émouvant. Et J'avais juste une question de précision, parce que j'ai peut-être mal entendu. Le passage qui m'avait déjà marqué, que je trouve très très beau, où Camus décrit l'entrée dans la maison avec le couloir sombre et puis à un moment la tombée de la lumière. Il m'a semblé que quand tu nous l'as lu, ça provenait non pas du livre lui-même, mais de notes qu'il aurait prises antérieurement. Oui, ou est-ce que je me trompe?
Oui, c'était cet extrait précis est issu des notes. Donc, enfin, de l'art dans la communion, qui est le texte qui le précède, où on voit comment il travaille son texte, ses conceptions de l'architecture, et après, effectivement, ce passage va se retrouver un peu modifié dans la maison mauresque. Alors, j'ai évoqué surtout donc la maison mauresque, mais dans ce court récit, il va aussi au-delà de l'évocation de la maison, puisqu'il parle d'espaces hétérotopiques comme le cimetière qui est à côté, la mosquée qui protège le cimetière. Il parle du jardin public, donc il parle aussi de ce que Jean-Louis mentionnait ce matin, le bâti environnant autour de la maison, des boutiques, des marchands arabes. Donc c'est un court texte de 5 pages où il évoque avant tout la maison et l'intérieur de la maison, mais où il va aussi extrapoler vers la descente vers la mer et d'autres espaces qu'il évoque. Mais le texte que j'ai lu, effectivement, c'est dans le texte L'art dans la communion qui le précède.
Oui, un point qui semble a priori contradictoire, dans ce texte, texte de Camus, qui est un texte très sensuel, un texte notamment qui est dominé par cette question de la lumière, de la circulation de l'air, donc qui est en tant que telle une très bonne réflexion sur l'architecture méditerranéenne, quel que soit le côté de la Méditerranée par lequel on l'aborde. Tu disais qu'il s'intéressait plus au résultat qu'au processus, mais dans le même temps, tu évoques que tu cites cette phrase, la maison n'est plus à moi, virgule, achevée. Donc en fait, la maison était plus à lui en chantier, je le comprends comme ça, et c'est comme ça qu'il faut comprendre qu'achevée, c'est-à-dire que finalement, le processus. Oui. Il se serait plus approprié le processus, l'œuvre, le chantier, que le résultat.
Le résultat. Oui, c'est vrai que c'est une excellente remarque. En même temps, il y a ce paradoxe où il ne parle pas du tout de tout le processus de construction de la maison, où il arrive comme un visiteur qui visiterait un musée, en fait, puisque c'est le paradoxe aussi de cette maison indigène, cette maison mauresque, c'est qu'elle n'est pas habitée. C'est une maison qui est à la gloire de l'Empire français, de la colonisation, avec, soi-disant, donc, cette empreinte locale de matériaux et de reconstitution d'une maison à l'identique du 19e siècle. Et en même temps, Camus pressant, il me semble, cette maison, qui, une fois qu'elle est terminée, elle a sa vie, elle a sa propre vie. Quoi que lui-même puisse écrire dessus, quoi que l'architecte puisse constater des années plus tard, il y a cette notion de l'indépendance de cette maison, il me semble, dans son texte. Mais peut-être qu'elle n'est plus à lui une fois qu'il l'a visitée aussi. C'est un peu comme ça que moi je l'ai interprétée. C'est qu'une fois qu'il est... C'est une maison de passage. Il y a aussi cette notion, ce n'est pas une maison qu'on visite, ce n'est pas une maison dans laquelle on reste. Et que Camus, une fois qu'il l'a visitée, il part, il descend vers la mer, il va remonter vers la maison, mais elle est, il l'a vue, il est passé. Et elle n'appartient plus au créateur. C'est dans ce sens-là que moi, je l'interprète.
Et peut-être. Il est vrai que c'est une maison, je dirais presque exhibitionniste, une maison démonstrative, qui est une sorte de fragment de l'exposition coloniale du bois de Vincennes par anticipation, alors que la maison du colon d'Oran, qui est assez dérisoire quand on la voit sur ce carrefour, à côté, comme tu l'as dit, de la cathédrale, pas très loin d'une grande opération de Pouillon qui la domine. Donc cette maison du colon, elle ressemblerait plus à un des pavillons des grands magasins de l'exposition de 1925. Mm-hmm. Elle a aussi une espèce de volonté démonstrative et pas du tout d'aspiration à fabriquer du paysage urbain.
Oui, et la citation exacte, c'est « à la gloire de l'œuvre colonisatrice de la France », donc qui a été après indépendance retirée, et il est même mentionné l'année du centenaire de l'Algérie.
Alors, en fine lectrice de Camus, une question, rapatrions Camus, si on peut dire, en métropole. Est-ce que Camus a, dans d'autres fragments de ses textes, utilisé, comme il l'a fait, ici, l'architecture de façon métaphorique? Je pense à son analyse du rapport intérieur-extérieur, qui va au-delà de l'architecture, mais qui renvoie à toute la civilisation arabo-islamique de l'Afrique du Nord. Est-ce qu'il a, par ailleurs, laissé paraître un intérêt pour l'architecture, l'environnement bâti dans ces autres textes qui sont, dans lesquels l'espace a une présence, le paysage a une présence, évidemment, la topographie a une présence, mais est-ce qu'il y a de l'architectural explicite?
Alors, à ma connaissance, pas de manière aussi flagrante et explicite que dans la maison mauresque. Il y a l'évocation d'une autre architecture dans les nouvelles noces, notamment le vent Al-Jemila, où là, c'est l'architecture antique du site de Al-Jemila. Et d'ailleurs, on peut voir quelques échos intertextuels entre la maison mauresque et le vent Al-Jemila dans cette évocation de la circulation de l'air, de l'atmosphère inquiétante et de la mort qui rôde aussi dans les deux textes. Après, bon, dans l'étranger, il y a une description de la topographie, bien sûr de l'appartement dans lequel Meursault, le personnage principal, vit avec les autres protagonistes, l'évocation des rues d'Alger, de tramway, mais il n'y a pas d'évocation, en tous les cas, il n'y a pas d'ambition d'évocation architecturale dans le texte. Dans le premier homme non plus, je n'ai pas le souvenir de...
Bien.
Je crois que c'est vraiment ce texte-là, ce premier texte, où on voit l'influence, je pense, de Le Corbusier dans ce texte et de des conversations qu'il a pu avoir avec Jean de Maisonseul pour évoquer certaines affinités de langage et de champs de recherche.
Une dernière question.
Ce n'est pas une question, c'est une précision, juste puisqu'on est toujours sur Le Corbusier, on ne s'en sort pas. Je viens de me souvenir que, en sens inverse, Le Corbusier, sans doute vers 1954-55, se souvient donc de ses amitiés avec Camus, et amitié peut-être exagérée, et il lui envoie le manuscrit, alors je pense que c'est du poème de l'Angle droit, en lui disant, vous qui êtes un grand écrivain, je me permets de vous envoyer ce manuscrit, parce que peut-être vous pourriez me faire des remarques, soit sur la langue, soit sur la manière de raconter les choses, etc. Et Camus lui répond, oui, je vais voir ça, mais enfin de manière assez rapide. Mais donc, dans l'autre sens, ça fonctionne aussi.